Véroa Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Nous sommes le vendredi 16 février 2024. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver, Jacques Aristide, en direct de Washington, pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, un programme de VO Afrique. Les titres que nous allons développer ce matin: au Sénégal, la Cour constitutionnelle invalide le report de la présidentielle.
Les Sénégalais sont prêts à se battre pour la démocratie, mais savent qu'il y a un coup. Et cette décision aujourd'hui peut, a priori, nous permettre donc d'éviter ces nouvelles tensions-là.
Réactions à venir après cette décision inédite qui ouvre des lendemains incertains pour ce pays. Également dans l'actualité, de nouvelles manifestations anti-Rwanda tenues dans la région orientale de la RD Congo. La Maison-Blanche répète à Israël son opposition à une opération à Rafah dans la bande de Gaza sans protection des civils. Premier procès pénal de l'histoire des États-Unis pour un ancien président, Donald Trump, comparaîtra à partir du 25 mars prochain à New York. Il fustige une affaire d'ingérence électorale. Au Sénégal, la Cour constitutionnelle a invalidé hier le report de la présidentielle du 25 février. Elle a annulé le décret présidentiel qui, de facto, modifiait le calendrier électoral 3 semaines seulement avant l'échéance. Le point avec Wahani Johnson-Nosambu, notre correspondant à Dakar.
Le Conseil constitutionnel a en réalité coupé la poire en deux. Il rejette la loi reportant la présidentielle au 15 décembre prochain. Dans sa décision rendue hier soir, la juridiction juge, je cite, « la loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution adoptée le 5 février dernier par l'Assemblée nationale, contraire à la Constitution ». Les juges annulent de fait le décret du 3 février portant abrogation du décret convoquant le corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Cependant, l'élection ne se tiendra pas à cette date. C'est en tout cas la conclusion du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision, évoque en effet l'impossibilité de tenir le scrutin à date échue. Les juges invitent toutefois les autorités à organiser l'élection dans les plus brefs délais. Un verre à moitié plein donc pour l'opposition, dont certains membres se réjouissent de la décision. L'annonce a été accueillie comme une victoire par beaucoup de Sénégalais. Elle a été suivie de quelques coups de klaxon et des cris de joie dans les rues de la capitale, Dakar. Ce verdict a été salué par les observateurs qui y voient un acte fort, prompt à décrisper la tension provoquée par l'annonce du report de la présidentielle. Les yeux sont désormais rivés sur le président Macky Sall. Wahani Johnson-Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
Oui, les réactions continuent de tomber après ce jugement qui plonge le pays dans l'inconnu. Mais pour l'ancienne première ministre Aminata Touré, qui a rejoint les rangs de l'opposition, c'est une décision qui remet le Sénégal dans sa trajectoire normale. Je ne suis pas surprise parce que c'était trop gros tout ce qu'il a se passé, a-t-elle déclaré. Nous constatons que le droit a été dit, a de son côté commenté Détié Fall, un autre candidat à la présidentielle qui s'est dit heureux du verdict qui a été rendu le jour où plusieurs opposants arrêtés en lien avec les troubles politiques des dernières années ont été libérés, comme nous le détaille Antoine Roger Bolamba.
La plupart de mes clients dont les dossiers montés pour des considérations politiques sont libérés, a indiqué Maître Thier Kouré-Siba, assurant que cela concernait plusieurs dizaines de détenus. Maître Moussa Sarr précise que sur la liste figure Aliou Sané, coordinateur du mouvement citoyen Yanamar, Djamil Sané, maire d'une commune de Dakar, et plusieurs membres de l'ex-PASTEF, parti dissous. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, leaders du parti PASTEF dissous, sont toujours en prison et plusieurs journaux sénégalais font état de leur éventuelle libération. La pression internationale fait que le président Macky Sall ordonne des libérations, a estimé Souleymane Djim, membre du collectif des familles des détenus politiques. Ce geste d'apaisement était attendu après la forte mobilisation contre le report de la présidentielle et les appels d'importants partenaires du Sénégal, comme les États-Unis ou la France, à organiser des élections le plus rapidement possible.
Ailleurs dans l'actualité, des ministres de l'Alliance des États du Sahel se sont retrouvés hier à Ouagadougou. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui ont quitté le bloc ouest africain de la CEDEAO, envisagent de créer une confédération de la capitale burkinabé, notre correspondant Lamine Traoré.
Au moins une vingtaine de ministres des trois pays ont pris part à la rencontre de Ouagadougou. Le général de brigade Kassoum Koulibaly, ministre burkinabé de la Défense, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale du Mali, et le général de corps d'armée Salifou Modi, ministre de la Défense du Niger, étaient les chefs de délégation. Selon les affaires étrangères du Burkina, la réunion ambitionne revisiter la charte de l'Alliance des États du Sahel et élaborer un traité portant création de la Confédération, réunissant les trois pays qui ont aussi examiné le contexte politique, le retrait de la CEDEAO. Le colonel Abdoulaye Maïga du Mali a affirmé que ce retrait offre une nouvelle opportunité de parvenir à une fraternité réelle, une solidarité réelle et une intégration réelle sans aucune ingérence ni manipulation extérieure. Le général Modi du Niger, lui, estime que la réunion a permis de mettre en place une architecture institutionnelle de l'Alliance des États du Sahel. Un sommet des chefs d'État de l'AES est annoncé pour très prochainement. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
De nouvelles manifestations hostiles au Rwanda, mais aussi à ce qui est décrit comme la complicité de la communauté internationale avec ce pays, accusé de soutenir la rébellion du M23, ont eu lieu hier dans deux grandes villes de l'est de la République démocratique du Congo. Rosine Munezero.
À Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, des centaines de personnes encadrées par la police ont défilé dans le calme pour réclamer la libération des territoires de la province voisine du Nord Kivu. Libérer Bunagana, libérer Rutshuru, libérer Masisi, scandaient les manifestants rassemblés à l'appel de la société civile et syndicats de Bukavu. Dans la province orientale de la Tchopo, à Kisangani, des militants de mouvements citoyens ont aussi appelé le président Félix Tshisekedi à déclarer la guerre au Rwanda et à rompre les relations diplomatiques avec les pays occidentaux en raison de leur soutien présumé au Rwanda. Les manifestants ont appelé à la fermeture de la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda, également accusés de soutenir les rebelles, mais aussi à la rupture des relations diplomatiques avec certaines puissances occidentales, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et la France.
Deux morts, trois blessés, l'Afrique du Sud a déploré hier ses premières victimes depuis le déploiement de troupes dans cette même région orientale de la RD Congo. D'après l'armée sud-africaine, une bombe tirée au mortier a atterri dans l'une des bases de son contingent militaire. Elle affirme qu'une enquête va être menée pour déterminer ce qui s'est passé. Dans la soirée, le gouvernement congolais a dit avoir appris avec regret la mort des deux militaires en accusant l'armée rwandaise et le M23 qui, selon lui, ont pilonner le camp sud-africain à Mubambiro, en territoire de Masisi. Dans un communiqué, il a présenté ses condoléances et salué l'engagement sans équivoque des pays membres de la SADC qui appuient ses efforts visant à restaurer la paix dans la région. Le Rwanda, qui nie soutenir les rebelles du M23, n'a pas encore réagi à ces dernières accusations.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La communauté internationale, les États-Unis en tête, redouble ses appels pour dissuader Israël d'entamer une offensive à grande échelle à Rafah, où près d'1,5 million de Palestiniens sont piégés à la frontière avec l'Égypte. Le président américain Joe Biden a réitéré au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lors d'un appel téléphonique hier, son opposition à une opération militaire à Rafah sans un plan crédible et réalisable assurant la sécurité des civils à Rafah, selon la Maison-Blanche. Lors de cette conversation, Joe Biden a également réaffirmé son engagement à travailler sans relâche pour assurer la libération de tous les otages dès que possible. Ici même aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump s'est vu notifier en personne hier sa comparution à partir du 25 mars à New York. C'est pour une affaire de paiement pour terre, une relation supposée avec une actrice de film porno, Mohamedou Oumfa.
Donald Trump s'est rendu au palais de justice de Manhattan où le juge Juan Merchan a rejeté ses requêtes pour annuler les poursuites comme il le souhaitait. Il sera donc, le 25 mars, le premier ancien président des États-Unis à comparaître en procès pénal. Il est accusé d'avoir maquillé les comptes de son entreprise pour dissimuler le versement de $130,000 à une star du porno, Stormy Daniels, pour qu'elle se taise sur une relation présumée en 2006. L'homme d'affaires, qui était déjà marié à Melania Trump, a nié toute relation avec l'actrice de son vrai nom, Stephanie Clifford. Le procureur de l'État de New York pour la juridiction de Manhattan, le magistrat élu du Parti démocrate Alvin Bragg, s'est dit satisfait de la décision du tribunal et impatient d'exposer son affaire en justice le 25 mars 2024.
Justement, en réaction, Donald Trump a une nouvelle fois condamné une affaire d'ingérence électorale, une honte et un État, une ville de New York truquée, selon lui, par les démocrates du président Joe Biden. Comment peut-on se présenter aux élections quand on est assis dans un tribunal, a déclaré hier l'ancien président républicain. Pendant ce temps, Fannie Willis, une procureure de l'État américain de Géorgie, qui poursuit Donald Trump en l'accusant d'avoir tenté d'inverser les résultats de l'élection de 2020, s'est défendu hier de tout conflit d'intérêts lié à sa vie intime. Donald Trump demande un abandon des poursuites qui le visent en Géorgie en affirmant que la procureure Willis est coupable d'une faute professionnelle liée à une liaison intime. Et voilà donc pour le journal. Là, sans plus tarder, quelques nouvelles économiques. La Minute Éco avec Michel Joseph.
L'Ouganda négocie avec la Tanzanie pour importer tous ses produits pétroliers via Dar es Salaam, ce qui signifierait la fin des importations via le port kényan de Mombasa, a déclaré jeudi à Reuters la ministre ougandaise de l'énergie, Ruth Nankabirwa. Selon elle, le gouvernement kényan a refusé d'accorder la licence requise, empêchant les importations de continuer d'arriver via Mombasa. La Banque centrale du Nigeria a fixé une limite au transfert de devises provenant des recettes d'exportation de brut des compagnies pétrolières internationales vers leur société mère dans le cadre de sa dernière mesure visant à améliorer l'offre de dollars sur le marché des devises locales. La banque souhaite que ces transferts n'impactent pas significativement la liquidité du marché d'échange, tout en aidant les sociétés pétrolières à avoir un accès facile à leurs produits bruts. En Tunisie, le taux de chômage s'est creusé fin 2023 pour atteindre 16,4% contre 15,2% fin 2022, selon des statistiques de l'Institut national INS annoncées jeudi. Le chômage touche particulièrement les jeunes de 15 à 24 ans, avec 40,9% de sans-emploi dans cette catégorie fin 2023, contre 38,8% fin 2022.
Et maintenant les sports. Bonjour Nanik Talani.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Le Sénégal, qui représente l'Afrique aux côtés de l'Égypte à la Coupe du Monde de Beach Soccer, fait son entrée contre la Biélorussie.
Le Sénégal, champion en titre de la Coupe d'Afrique des Nations CAF de Beach Soccer ou foot de plage, et l'Égypte finaliste, représente l'Afrique à la 13e édition de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, qui a débuté hier jeudi aux Émirats Arabes Unis à Dubaï et réunit 16 pays jusqu'au 25 février. Le Sénégal, quadruple champion d'Afrique, est logé dans le groupe C avec la Biélorussie qu'il affronte ce vendredi, ainsi que la Colombie et le Japon. L'Égypte est dans le groupe A avec l'Italie, les États-Unis et le pays hôte, les Émirats Arabes Unis, qui ont battu les Pharaons hier 2-1 lors de leur première sortie. L'Afrique n'a pas encore atteint le podium du tournoi de ce sport. Le Sénégal a raté une médaille de bronze après une courte défaite 9-7 contre la Suisse lors de la dernière édition en 2021 en Russie, championne en titre.
La CAF a publié le meilleur 11 de la CAN Côte d'Ivoire 2023.
Selon ce classement du meilleur 11, la Côte d'Ivoire, pays hôte et championne d'Afrique, compte trois noms, Ghislaine Conan, Jean-Michel Seri et Franck Kessi. Le Nigeria finaliste compte également trois noms sur la liste, Ola Aina, William Troost-Ekong et Ademola Lookman. L'Afrique du Sud, qui est entrée dans la compétition en tant qu'outsider, mais a marché vaillamment vers la troisième place, à ses gardiens Ronwen Williams et Thébo Mokuna au podium. La RDC, quatrième place, compte aussi deux noms au perchoir, Yohan Wissa et Chancel Mbemba. Le défenseur ivoirien Ghislaine Conan est aussi sur la liste, de même qu'Emilion Soué, Guinée équatoriale, qui s'est imposé comme le meilleur buteur de la compétition avec 5 buts, même si son équipe n'a pas atteint les demi-finales.
Athlétisme pour terminer, Nanit, la médaillée d'argent olympique Siobhan Haughey s'est qualifiée hier pour les demi-finales du 100 mètres libre féminin à Doha.
Cette victoire intervient un jour après que l'athlète est devenue la première championne du monde de natation de Hong Kong grâce à sa victoire sur 200 mètres. Siobhan Haughey, finaliste derrière Molly O'Callaghan au 100 mètres lors de l'épreuve de 2023.
Merci bien, Annick.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la Tranche Magazine. Retour sur ce nouveau rebondissement dans le feuilleton électoral au Sénégal. Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution la loi adoptée le 5 février par l'Assemblée nationale, repoussant l'élection au 15 décembre, alors qu'elle devait se tenir ce 25 février. Les juges du Conseil demandent aux autorités de tenir les élections dans les plus brefs délais. Pour une réaction, Abdourahmane Dia a joint à Dakar Mohamedou Baralo, président du mouvement Farlou, qui soutient le candidat Bassirou Diomaye Faye.
Oui, c'est une décision qui est satisfaisante parce qu'elle permet au peuple sénégalais de retrouver un droit fondamental, celui d'aller à une élection à date. Quand je dis à date, c'est une élection qui se tient à la fin du mandat du président. Nous avions demandé dans notre recours à ce que le Conseil constitutionnel puisse aménager et choisir au besoin une nouvelle date. Le Conseil a demandé que ça se fasse de manière concertée avec les autorités. Mais c'est une décision qui permet aux Sénégalais, en tout cas, de se centrer sur l'essentiel, donc l'élection, et d'éviter certaines tensions.
Les Sénégalais sont quelque peu soulagés après cette décision du Conseil constitutionnel.
Soulagés parce que, comme vous le savez, il y a une série de manifestations qui étaient prévues ces prochains jours. Et si on regarde ce qui s'est passé lors des manifestations des jours précédents, donc c'était tendu, les Sénégalais avaient des craintes. Les Sénégalais sont prêts à se battre pour la démocratie, mais savent qu'il y a un coup. Et cette décision aujourd'hui peut, a priori, nous permettre donc d'éviter ces nouvelles tensions-là.
Qu'est-ce qui serait pour vous une date réaliste?
Alors, il faut aussi, c'est vrai, on a perdu pratiquement 10 jours de campagne. Et le Conseil a jugé nécessaire donc d'aménager le calendrier, mais de laisser de la marge donc aux autorités. Mais il faut rappeler que dans le considérant 14 de la décision, le Conseil constitutionnel rappelle que la date de l'élection ne doit pas sortir du mandat. C'est-à-dire que l'élection doit se faire, les deux tours doivent se faire avant le 2 avril. Ce qui veut dire aujourd'hui, pour nous, si on récupère les 10 jours perdus de la campagne, à la fin de la première semaine de mars, normalement, en tout cas début mars, jusqu'au 10, encore début mars, on peut avoir le premier groupe de l'élection. Éventuellement, s'il y a un deuxième tour, ce deuxième tour pourrait se tenir. Donc, ce qui est important pour nous, et le Conseil l'a rappelé, c'est que l'élection se tienne avant la fin du mandat du président de la République. Donc, la date butoir pour ces élections-là, c'est le 2 avril.
Alors, qu'est-ce que vous attendez justement du président?
Ce que nous attendons du président, c'est de prendre de la hauteur, de prendre du recul, d'écouter la clameur de son peuple après cette décision-là, de comprendre qu'après deux mandats et tous les honneurs que les Sénégalais lui ont rendus, c'est à son tour aujourd'hui de permettre aux Sénégalais de jouir de leur droit fondamental, d'avoir une élection à la fin de son mandat, d'élire un nouveau président et de regarder vers le futur. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de permettre aux Sénégalais de regarder devant.
C'était l'acteur politique sénégalais Mohamedou Baralo. Il était en ligne de la capitale sénégalaise.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, l'intensification du conflit entre les rebelles du M23 et l'armée a aggravé la crise humanitaire chronique dans la région orientale, en proie aux violences récurrentes depuis trois décennies. Alors que de nombreux habitants, surtout ceux contraints de fuir les affrontements, ont besoin d'une aide urgente, des organisations comme le Conseil norvégien pour les réfugiés évoquent un manque de ressources pour assister toutes ces personnes. Antoine Roger Bolamba a joint Joachim Djiaminardi, conseiller régional de cette ONG. Il est en charge du plaidoyer pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, basé à Goma.
La situation dans ces moments à Goma et dans les alentours, c'est une situation très préoccupante. On voit une escalade des violences et du conflit avec beaucoup de combats, des affrontements qui créent beaucoup de déplacements. Donc dans ces moments, on a plusieurs centaines de milliers des personnes déplacées qui sont en train d'arriver. Dans les dernières semaines, on a vu 135 000 personnes juste dans la première semaine de février qui sont arrivées juste à côté de la ville de Goma, une ville qui est déjà à presque 2 millions de habitants. Et donc, c'est une situation très, très grave, très compliquée. En même temps, il faut aussi se rappeler que Goma est un peu l'hub régional pour la réponse humanitaire, pas justement dans le Nord Kivu, mais aussi dans le reste de l'Est du Congo. Et donc, le conflit qui s'approche à Goma peut aussi avoir un impact domino sur le reste de la région.
Effectivement, mais quelle est la situation actuellement avec l'accès à l'aide humanitaire? Est-ce que la population qui est dans le besoin a l'accès facile à l'aide humanitaire?
L'accès à l'aide humanitaire, dans ces moments, est très compliqué. Il y a vraiment deux raisons pour ça. La première, c'est les combats, la non-sécurité. Dans ces moments, on peut dire que dans les terroirs, à côté, le territoire à côté de la ville de Goma, il y a plus ou moins 600 000 personnes qui sont dehors de l'accès à l'assistance. Et ça, c'est en raison de l'insécurité. Au même temps, on a aussi des problématiques liées à l'accès aux services et aux besoins de base autour de la ville de Goma. Et ça, c'est en raison des routes qui sont coupées. Dans ce moment, la ville de Goma est complètement isolée du reste du Congo, du reste du pays. La seule façon pour arriver à Goma dans ce moment, c'est par le lac. Et donc, c'est très difficile de porter de l'assistance pour ces personnes, en particulier pour tout ça qui est assistance de la nourriture.
Et qu'est-ce que vous pouvez formuler comme demande au gouvernement congolais, par exemple?
Tous les partis au conflit sont responsables de la protection des civils dans des situations de conflit. Et donc ça, c'est vraiment très important. Et comme je disais, voilà, l'accès humanitaire, c'est vraiment fondamental que les organisations humanitaires nationales et internationales pouvant avoir accès à toutes les populations dans les maisons. Et on rappelle qu'il y a des besoins vraiment urgents, donc la santé, la nourriture et les abris qui sont vraiment pressants et vraiment graves.
Joachim Djiaminardi du Conseil norvégien pour les réfugiés.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Un nouveau rapport indique que l'agroalimentaire en Afrique, la transformation, l'emballage et la vente des aliments produits localement pourraient être la clé pour stimuler l'emploi, les revenus et la sécurité alimentaire. Du bureau de la VOA à Nairobi, le reportage de Mohamed Youssouf, le récit est de Rosine Mounezero.
Des experts en agriculture, ingénierie, écologie, nutrition et sécurité alimentaire ont dévoilé mercredi un rapport de 140 pages en Ouganda examinant les défis auxquels sont confrontés les jeunes et les compétences nécessaires pour les emplois dans le secteur agroalimentaire. Roda Tumushime, ancienne commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture de l'Union africaine.
Food trade provides an opportunity for youth.
Le commerce alimentaire offre aux jeunes la possibilité de créer des emplois dans l'agro-industrie et d'améliorer le développement socio-économique. Les investissements dans l'agro-transformation et la force et les liens en amont vers le marketing et le commerce et les liens en aval vers la production qui résultent de ces chaînes de valeur deviendront un secteur central de création d'emplois.
Le rapport donne des exemples. En Zambie, les autorités ont lancé IAPASA, un projet visant à accroître les revenus des jeunes ruraux. Ce projet encourage la collaboration entre les différents acteurs du secteur agricole, principalement les petits exploitants, et l'amélioration des relations entre les petits producteurs et les grandes entreprises agroalimentaires. En coordination avec l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation internationale du travail et le gouvernement zambien, IAPASA a créé 3 000 emplois et amélioré 5 000 entreprises rurales dirigées par des jeunes. Selon la Banque mondiale, les marchés combinés de l'alimentation et des boissons en Afrique devraient être évalués à 1 000 milliards de dollars d'ici à 2030. Ousmane Badiane est le coprésident du groupe d'experts qui a publié le rapport.
Making policies much more sensitive to the needs Il sera important de rendre les politiques beaucoup plus sensibles aux besoins et aux ambitions des jeunes. Il sera extrêmement important de créer un espace d'engagement avec les jeunes. Pour soutenir tout cela dans les deux dernières décennies à venir, il faudra être capable de soutenir la croissance dans le contexte d'un climat changeant, non seulement en termes d'adaptation et de résilience, mais aussi en étant capable de trouver de nouvelles façons de faire des affaires.
Selon la Banque africaine de développement, 11 millions de jeunes entrent chaque année sur le marché du travail à la recherche d'un emploi. Mais seuls 3 millions d'emplois formels sont créés chaque année. En Afrique, 120 millions de personnes âgées de 15 à 35 ans sont au chômage. Dorothy Okello, professeure d'ingénierie à l'université de Makerere en Ouganda, a déclaré à VOA qu'il était nécessaire d'établir un lien entre les opportunités dans le domaine de l'agriculture et le niveau d'études des étudiants. Les experts appellent les gouvernements africains à donner plus de pouvoir aux jeunes en s'attaquant aux barrières commerciales, en investissant dans la technologie et en impliquant les jeunes dans la formulation des politiques et la prise de décision.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Bamako, la capitale malienne, a accueilli du 6 au 12 février dernier la deuxième rencontre internationale des détenteurs de savoirs occultes, avec la participation de dignitaires africains, dont des rois, des reines, des princes et princesses, des leaders religieux et des donzos venus des quatre coins d'Afrique. L'événement a été tenu à l'initiative du professeur Mamadou Babou Niang. Il explique au micro de Modibo Dembélé les motivations de ce rendez-vous et la création du Centre pour la promotion du savoir occulte africain.
Mais c'est ce qui est normal, parce que c'est notre culture. Nous sommes des Africains. Il est temps que nos connaissances, que nos ancêtres nous ont léguées, qu'on essaie de mettre en valeur.
Et quelles sont les disciplines qui seront enseignées dans ce centre au Mali, dont le siège social au Mali?
Toutes les disciplines, que ce soit la télépathie, le magnétisme, le fakirisme, l'illusion, l'hypnotisation, mais à l'africaine.
Et que répondez-vous à vos détracteurs qui disent que ces sciences ne sont pas réelles?
Bon, ça ne regarde que, parce que vous savez, si vous abandonnez votre culture et allez prendre la culture d'autrui, donc c'est toujours comme ça. On a vu, il n'y a pas très longtemps, un chef d'État dire que l'Afrique n'a pas de culture, que l'Afrique ne fait même pas partie de la civilisation. Donc il est temps que nous, la connaissance que nos ancêtres nous ont laissée, qui répond de la magie rouge, de la connaissance des plantes et des animaux, qu'on essaie de mettre en valeur et enseigner ça.
Et nous savons que depuis plusieurs années, vous entreprenez une mission de sensibilisation par rapport à la démystification des sciences occultes. Qu'est-ce que le centre pourrait faire par rapport à cette mission de démystification?
Bon, vous savez, dans chaque boulot, il y a ce qu'on appelle la vérité et le mensonge. Aujourd'hui, à travers, on a tellement de charlatans qui font du n'importe quoi, qui ne répond pas de l'Afrique. Donc, il est temps de démystifier ce qui est mauvais et d'enseigner ce qui est bien, ce qui est réel.
Et il y a beaucoup de gens qui disent que malgré que l'Afrique dispose de tous ses talents sur le plan occulte, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, ce sont les problèmes qui minent l'Afrique?
Bon, les problèmes qui minent l'Afrique, toujours, ça c'est, il y a des civilisations qui sont derrière ça. Il y a des Européens qui sont derrière. C'est l'Occident qui est derrière, avant l'indépendance. Depuis ce qu'on appelle l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Qui nous disent que notre connaissance, notre culture n'est pas vraie. Donc il est temps qu'on se réveille. Raison pour laquelle j'ai convoqué tous les rois d'Afrique à Bamako, les rois, les princes, les détenteurs de savoir occulte africain à Bamako, un conclave pendant une semaine pour essayer de discuter, voir qu'est-ce qu'on va mettre sur place.
Et si vous avez un dernier mot à l'endroit de la jeunesse africaine vis-à-vis de ce futur centre ou école qui verra les jours bientôt, qu'est-ce que vous
voulez dire? Mon dernier mot, c'est de donner des conseils. Qu'un tronc d'arbre a beau séjourner dans l'eau, ne sera jamais crocodile. Donc, on ne dit pas que tout ce que l'Occident nous a amené est fausse, on n'a pas dit ça, mais il est temps qu'on pratique notre connaissance à la africaine.
Mamadou Babou Niang, président du réseau panafricain de la science mystique et du patrimoine ancestral au Mali. Et voilà Le Monde aujourd'hui, édition matinale du vendredi 16 février 2024. Prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Fatouma Kalala Alimassi. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Je vous souhaite une très belle journée et un merveilleux week-end. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir.